cuisinette, le ménage, peut-être encore plus que les petites filles n'utilisent du matériel garçon, parce que les adultes actifs qu'ils voient, c'est plutôt dans ce secteur des activités quotidiennes des femmes qu'ils les voient. Donc il y a une double démarche chez l'enfant de cet âge, qui est une démarche de qui suis-je en général, et qui suis-je en tant que garçon, qui suis-je en tant que fille, et qu'est le monde qui m'entoure, et qui postule que des jouets pour garçons et pour filles, pour utiliser cette vieille classification pratique, doivent exister, seront utilisés par les enfants selon qu'ils sont garçons ou selon qu'ils sont filles, et seront également utilisés par tous les enfants dans une démarche d'exploration et de découverte. Et puis, il faut citer des jouets qui parfois suscitent des réactions plus vives. C'est les jouets qui mettent fortement en évidence une image stéréotypée de l'homme ou de la femme. Les poupées Barbie, par exemple, les poupées garçons comme Ken ou Big Jim, Musclor maintenant. Ces jouets-là intéressent les enfants à partir de 5-6 ans et les intéressent souvent assez longtemps encore pendant la période scolaire. On pourrait mettre dans le même lot du matériel assez différent les panoplies de cow-boys, d'infirmières, etc. Hein, on ne donne pas un costume de Zorro à une petite fille en général, hein, on donne à un garçon. Et puis la petite fille, elle aura droit à une panoplie d'infirmières. Je crois que ça fait partie de cette même démarche d'exploration de soi et d'exploration du monde. Qu'est-ce que c'est qu'une femme? Qu'est-ce que c'est qu'un homme? Et quels sont les traits frappants? Ce qu'on peut regretter, en tout cas, mais on aura sûrement l'occasion d'en reparler, c'est l'aspect un peu caricatural de ce matériel. Et le fait qu'il véhicule, outre des stéréotypes, vraiment des images qui sont des images extrêmement grossières et peu élaborées. J'aimerais rapidement essayer de développer encore ce que pourraient être les nouveaux modèles, nouveaux moyens, qui sont le thème de ce colloque. Bien entendu, la première chose qui doit nous arrêter, c'est la question que j'ai déjà évoquée à plusieurs reprises du choix des jouets. Il est clair que si l'on veut dépasser des attitudes sexistes, conscientes ou non d'ailleurs, cela signifie que l'enfant doit être laissé tout à fait libre de son choix face aux jouets ou face aux objets pour jouer. À cet égard, la situation est peut-être pas aussi fermée qu'on pourrait l'imaginer. Je me suis livrée à un sondage auprès d'un certain nombre de ludothécaires de Suisse romande en leur envoyant un questionnaire. Une vingtaine d'entre elles ont bien voulu répondre, ce qui implique quand même un assez grand nombre d'enfants et de parents. Et une des questions que je leur avais posées, c'était qu'est-ce qui se passe quand une petite fille choisit un jouet de garçon, entre guillemets, quelle est l'attitude des parents, et qu'est-ce qui se passe quand un petit garçon choisit un jouet de fille. Alors, les réponses sont remarquablement concordantes. Il n'y a que très exceptionnellement un refus. C'est rare, disent-elles, pour certaines ça n'arrive jamais, pour certaines ça arrive exceptionnellement, qu'un parent dise « non, c'est pas pour toi, tu prends pas ça ». C'est par contre extrêmement fréquent, et c'est ce qui se passe le plus souvent, que le parent, c'est le plus souvent la mère, demande à l'enfant, garçon ou fille, hein, qui fait ce choix non conforme à son sexe, demande à l'enfant de confirmer ce choix. Hein. Est-ce que c'est bien ce que tu veux? Est-ce que tu es sûr que tu veux ça? Est-ce que tu t'amuseras avec ça? Est-ce que tu préférerais pas autre chose? Une espèce de manœuvre de l'adulte pour dire, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus adéquat? Mais la conclusion, c'est que la plupart du temps, en fait, l'enfant peut maintenir son choix. Savoir s'il refera la fois suivante le même choix, alors ça c'est autre chose, hein, parce qu'il y a un procédé assez fort pour le diriger vers quelque chose. Ça se passe donc comme si l'image, il ne faut pas quand même priver les petits garçons de poupées et priver les petites filles de camions, avait passé dans les têtes, mais qu'il subsiste quand même quelques réticences. Est-ce que c'est bien un bon choix? Est-ce que c'est bien ça qu'il veut? Mais ce qui est peut-être plus important, et c'est là-dessus que je conclurai, c'est sans doute la place que l'adulte fait au jeu de l'enfant. Et là, on est fondé à penser que l'adulte n'a pas la même attitude face au jeu de la fille que face au jeu du garçon. Les jeux des petites filles sont toujours décrits dans la littérature comme plus calmes, plus tranquilles, plus paisibles, moins variables, moins explosifs, tout ce que vous voudrez. Il y a probablement là un conditionnement assez efficace qui est opéré par l'adulte. Il est très vraisemblable que les adultes offrent aux petites filles moins d'espace pour jouer, tolèrent moins leurs déplacements, sont plus restrictifs quant aux manifestations dérangeantes, comme le bruit, comme le désordre, comme la saleté, et sont plus restrictifs aussi par rapport au temps ou à la liberté d'activité par rapport aux filles. C'est une chose très connue dans l'histoire de l'éducation des filles qu'on a rempli beaucoup plus pour les filles que pour les garçons le temps dont elles disposaient. Les histoires de l'éducation des filles qui parlent de la situation mais au siècle passé, il y a encore une centaine d'années, montrent comment ces petites filles sont toujours là en train de coudre, de broder. Même quand elles jouent à la poupée, il faut qu'elles lavent les habits et qu'elles les décorent quand il ne faut pas qu'elles les cousent elles-mêmes. Donc il y a souvent pour le jeu de la petite fille un lien qui est fait avec le travail et puis peut-être une restriction plus grande. Bien sûr, c'est en train de se modifier. On n'est plus dans la situation du 19e siècle, mais n'empêche que peut-être que la petite fille est beaucoup plus vite et plus largement que son frère chargée d'un certain nombre de tâches ménagères ou de collaborations ménagères qui, bien sûr, empiètent sur le jeu. Il est possible que, parce qu'il y a peut-être une justice à les savoir, que les choses se modifient à la période de l'âge scolaire et au début de l'adolescence, c'est-à-dire qu'on laisse à ce moment-là plus de temps aux filles et qu'on remplisse davantage le temps des garçons avec sport et études. Parce que c'est important qu'un garçon réussisse, c'est important qu'il ait des activités sportives, sociales, etc. Alors que la marge de liberté de la petite fille est, dans certains milieux en tout cas, peut-être un peu plus grande à partir de 7, 8 ou 9 ans. Mais il est probable qu'il y a un décalage qui subsiste, un décalage historique et qui pèse encore sur les filles. Ariès, quand il fait l'histoire de l'apparition du sentiment de l'enfance dans nos sociétés occidentales, dit que le sentiment de l'enfance s'est éveillé d'abord au profit des garçons, tandis que les filles persistèrent longtemps dans le mode de vie traditionnel qui les confondait avec les adultes. Les filles ont accédé à l'enfance, donc au jeu et à la liberté du jeu de l'enfant, plus tard que les garçons, et sans doute qu'il y a un certain poids qui reste de cela.
Donc, je veux dire, la possibilité de pouvoir jouer.
Non, c'est-à-dire que plutôt on a pensé que le garçon était un enfant et qu'un enfant c'est différent de l'adulte. Et la petite fille, elle restait encore conforme à. C'est encore un adulte modèle réduit. Oui. La caricature de cela, c'est ce que dit Rousseau sur l'éducation. Il insiste beaucoup sur le fait qu'Émile, il doit être éduqué d'une manière très spécifique parce que c'est un enfant, puis il doit être heureux, puis il doit vivre dans le présent. Et puis Sophie, qui liquide d'ailleurs en très peu de pages par rapport au nombre de celles qu'il a consacrées aux gamins. Alors elle doit être contrainte de bonheur parce que tout s'en serait là. Et il y a une antinomie entre ces deux modèles d'éducation qui est caricaturale, dont on se demande comment il ne l'avait pas perçue, mais ce qui montre bien qu'elle était dans l'esprit du temps. Donc, et ce sera ma conclusion, nouveau modèle, nouveau moyen, c'est surtout, et ça passe probablement par là, nouvelle attitude ou attitude plus consciente, plus réfléchie de l'adulte par rapport au jeu de l'enfant, qu'il soit un garçon ou qu'il soit une fille. Et puis, à partir de là, peut-être que la possibilité de jouer serait donnée de manière égale aux garçons et aux filles. L'usage qu'ils en feraient serait sûrement pas le même d'ailleurs. Et que tout ce qui est matériel de jeu, encore marqué de ces attitudes sexistes, évoluerait, ou en tout cas serait proposé aux enfants de manière analogue.
Sur Radio Pleine Lune 101.4, un débat, une retransmission des conférences qui se sont tenues lors du colloque « Vers une éducation non sexiste ».
On disait que les filles, ça s'habille et ça se teint. On se mettait du noir sur les cils et on enfilait des bas fins. Comme on disait que les filles sont gentilles, ne sont pas. On cultivait son apparence et l'on ne pensait plus qu'à ça. Cultiver ceux d'apparence, on ne pensait plus qu'à ça. Comme on nous disait que les dames ont un crâne sans cerveau, on s'arrêtait de réfléchir pour ne dire. des mots. Comme on disait que les dames ont une âme et pas de génie. On faisait tout pour être bête et l'on sécrète et se n'ennuie. On faisait tout pour être bête, on sécrète et se n'ennuie. Comme on nous disait que les mères, leur affaire, c'est le nid. Ce qui sortirait de nos ventres serait le centre de nos vies. Comme on disait que les mères doivent tout faire par l'amour. On raconterait ses sacrifices à son fils tous les jours. On raconterait ses sacrifices à son fils tous les jours. Comme on nous disait que les dames font un drame de vieillir. On avait peur devant la glace de sa face à venir. Comme on disait que les dames se condamnent. Et amère en prévision. On en devenait tracassière et amère en prévision.
Cécile Vache Broad qui parle des livres pour la petite enfance.
Avec les livres, en précisant d'abord que je n'ai pas vraiment considéré les livres pour la petite enfance, pour deux raisons. La première, c'est que les livres destinés aux tout-petits sont essentiellement des livres d'images, sans texte, et qui ont pour but de donner l'habitude des formes, de donner une certaine familiarité avec les couleurs, le vocabulaire. Et ce sont des livres qu'on pourrait dire indifférenciés, c'est-à-dire que l'intention n'est pas de former au rôle suivant de la petite fille et du petit garçon. Et d'autre part, une deuxième raison, c'est que on peut considérer que d'une certaine façon, le livre prend le relais du jeu. Et que, à partir d'un certain âge, l'enfant commence à lire plus et à jouer moins par conséquent. La troisième raison que j'ai oubliée, mais qui est aussi raison essentielle, c'est que j'ai également considéré qu'il était plus intéressant de s'en tenir à des textes que l'enfant pouvait lire lui-même. On a dépassé depuis quelques années ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire mettre au dos des livres, livres pour de 2 à 5 ans, de 6 à 8 ans, de 8 à 10 ans. Mais il est quand même vrai qu'il y a une certaine cible qui est visée par les auteurs ou par les éditeurs de livres pour enfants, et que cette cible prend les enfants entre tel et tel âge.
Ça existe.
Oui, ça existe encore. Ce que je veux dire, c'est que maintenant, on le fait moins systématiquement et qu'on considère que c'est pas forcément bon de mettre au dos de la couverture que c'est pour tel ou tel âge. On laisse une liberté de manœuvre plus grande. Enfin bon, ça c'est une autre question. Alors évidemment, les livres commencent à devenir intéressants et pertinents pour nous à partir du moment où il y a des personnages et à partir du moment où il y a histoire et donc forcément phénomène d'identification à ces personnages et différenciation fille-garçon. Je voudrais rappeler très brièvement les conclusions d'Elena Bellotti dans son livre « Du côté des petites filles » qui a une douzaine d'années, qui a été publié en 1973, simplement pour partir de là et pour ne pas s'en tenir à une simple constatation de l'existence du sexisme dans les livres pour enfants. Alors ses conclusions, très brièvement et très grossièrement, c'est que dans les livres pour enfants, il y a le personnage de la mère qui est une mère type, c'est-à-dire qui ne travaille pas, qui s'occupe de la maison, qui est là pour servir. Il a été question de ça hier à la conférence. Et d'autre part, les filles sont souvent obligées de s'identifier au personnage masculin parce qu'il n'y a pas de personnage féminin suffisamment actif et suffisamment valorisant auquel elles puissent s'identifier. Ce qui est d'autant plus paradoxal que, d'après les statistiques sur la lecture, les filles lisent plus que les garçons. Donc on a ce décalage qui est important et qui va se creuser encore dans la vie plus tard. C'est-à-dire que d'une part, les consommateurs sont des consommatrices, en fait, les lecteurs sont des lectrices, et que d'autre part, les personnages sont les héros sont plutôt des garçons. Alors c'est pas entièrement vrai, c'est le premier point que je voudrais développer, mais assez rapidement. Il y a des livres dont les héroïnes sont des héroïnes, enfin on est un peu coincé par le vocabulaire en français, dont les personnages principaux sont des filles, et en particulier des séries. Dans les livres de séries, il y a plus souvent des personnages féminins, de petites filles qui sont personnages principaux que des personnages de garçons. Comme si les personnages féminins pouvaient exister en tant que héros, enfin héroïnes, mais de façon stéréotypée. Alors le plus représentatif, on pourra revenir plus en détail là-dessus si vous voulez tout à l'heure, c'est cette série des Martines qui date des années 60, mais qui existe encore et qui est un grand succès éditorial. Pour vous donner une idée, c'est traduit dans une bonne vingtaine de langues, aussi bien en anglais qu'en espagnol, qu'en finnois, enfin partout. En Grèce, dans le monde entier, on ne peut pas échapper à ça. Et voilà, c'est toute la liste des pays qui est signalée par une accolade dans lesquels les Martines sont traduites. Et toujours rééditées avec ces mêmes dessins des années 60, donc de la petite fille bien traditionnelle. Alors j'ai pris celui-là, mais les autres sont exactement faits sur le même modèle. Martine à la maison, et c'est l'histoire d'une journée de Martine. Maman est partie, et donc Martine s'occupe, et occupe son frère, mais son frère n'est qu'un assistant dans ses tâches ménagères à elle. Et tout son but, son objectif, c'est que la maison soit bien propre et le repas prêt à la rentrée, quand maman va rentrer. Et il y a une phrase assez... Oui, oui, bien sûr.
Et là, c'est... Et ce qu'on lui fait faire,
c'est fou. C'est délirant.
C'est un ménage qualifié.
Oui, oui, bien sûr. Il y en a un qui est encore pire, c'est Martine, je ne sais plus comment il s'appelle, fait la cuisine ou quelque chose comme ça. Oui, Martine fait la cuisine, où il y a des recettes. Comment faire les crêpes, comment faire la confiture. Et elle prépare des repas pour ses grands-parents qui lui ont offert un livre de cuisine. Et elle fait du poisson. Et il y a marqué, toi aussi, tu peux faire, en s'adressant à la lectrice, tu peux faire la même chose, tu peux essayer de faire les crêpes, le poisson, la confiture. Et...
L'étonnant, c'est que ce ne sont pas des fictions, c'est une illustration de la vie quotidienne.
Oui.
Avec des stéréotypes bourgeois.
C'est ça.
Il y a Martine fait de l'équitation, voyez-vous.
Ouais.
C'est...
Oui, elle monte à cheval, elle va en avion, elle va. Il y a un Martine pour chaque geste de la vie quotidienne. Non, c'est des repères pour la petite fille, qu'elle sache bien comment il faut se comporter dans tel ou tel domaine. Et il y a une phrase que j'aimerais retrouver dans le texte parce que elle est significative et c'est finalement le but de Martine. C'est le facteur qui arrive. Non, c'est pas le facteur, c'est le laitier. Alors le laitier arrive, donc, vous voyez, en plus la présence du laitier dans cet intérieur bourgeois, enfin, c'est pas complètement aberrant. Et on entend sa grosse voix qui résonne jusqu'au fond du couloir. Maman n'est pas là, non, c'est moi qui la remplace, répond Martine. Bon, c'est pas la peine de chercher plus loin.
La limite, les filles qui viennent en Suisse dans les pensionnats, dire Émile Martine, elles n'ont pas besoin de venir dans les pensionnats.
Ouais, effectivement. Alors toujours dans les séries, et pour avancer un petit peu dans le développement, il y a une série qui s'adresse à des filles déjà un petit peu plus âgées, et à des garçons aussi d'ailleurs qui la lisent, qui est la série des Alice dans la Bibliothèque Verte. Alice, détective américaine des années 30, elle est née dans les années 30, et qui elle aussi est toujours actuelle, toujours rééditée. Ça fait le quart des ventes de toute la Bibliothèque Verte. Donc c'est énorme comme succès. Et si je vous en parle là en débordant un peu de la petite enfance, c'est que dans Alice, on peut repérer ce qu'on pourrait appeler le sexisme masqué, c'est-à-dire que apparemment, bon, Alice est l'héroïne de la série, Alice est une fille active, elle a 17 ans. Elle a son permis de conduire. Dès les premiers Alice, donc dans les années 30, ce qui est quand même assez remarquable, elle a sa voiture, elle est donc indépendante et émancipée d'une certaine façon, puis elle se lance dans des aventures, elle résout des énigmes que même la police n'arrive pas à résoudre. Donc c'est quelqu'un de très valorisé. Et c'est un modèle valorisant à laquelle la fille qui lit Alice peut s'identifier. Sans...
Oui. Oui, je veux dire, je vais peut-être le dire, mais c'est un peu expliqué dans les livres par le fait qu'elle n'a pas de mère.
Oui, alors, quand on commence à regarder de plus près, il y a pas mal de choses qui déroutent et qui font penser que c'est du sexisme masqué, justement. Alors, d'une part, la filiation se fait par le père. C'est-à-dire qu'Alice est détective, et pourquoi est-ce qu'elle est détective? C'est parce que, effectivement, sa mère est morte quand elle avait 3 ans, et donc toute l'éducation a été faite d'une part par la gouvernante qui a assuré tout le côté matériel, cuisine, éducation, ménagère. Alice est une parfaite ménagère. Et d'autre part, la filiation spirituelle, c'est le père. Et le père est avoué. Et en fait, Alice a débuté dans son métier de détective quand son père a commencé à lui parler un peu de ses affaires et à lui en confier. Bon, mais c'est pas tout. Alice travaille de façon totalement bénévole, c'est-à-dire qu'à chaque fois, quand le livre se termine, elle a résolu l'énigme, on lui propose de la payer, elle refuse toujours, en disant « mais non, je l'ai fait parce que ça me faisait plaisir ». Bon, et c'est vraiment le type même du travail féminin, ce travail bénévole, qui est aussi efficace, même plus efficace que le travail de la police, seulement la police est payée pour ça, son père est payé pour faire ce qu'il doit faire, mais elle fait mieux, mais elle n'est pas payée. Et elle n'est pas payée parce qu'elle refuse elle-même d'être payée. Bon, en plus, quand on l'interroge un peu, quand on la félicite, elle rougit. Donc elle sait rester modeste, enfin, c'est quand même la fille idéale. Et d'autre part, non seulement elle rougit, mais elle dit « mais c'est pas moi, ça s'est trouvé comme ça, par hasard ». Et quand on lit après coup, parce qu'évidemment, quand on est enfant, on se laisse... porté par l'aventure, mais quand on relit après attentivement les Alice, on se rend compte qu'effectivement, c'est pas de sa faute si elle trouve. C'est-à-dire qu'elle est là, et il suffit qu'elle soit là pour que aussitôt un voleur apparaisse, et donc elle va le suivre. En fait, tout se fait comme par magie. C'est une baguette, c'est comme si elle avait une fée qui a sa baguette magique, et sa seule présence fait que les choses se résolvent d'elles-mêmes. Alors, effectivement, oui, oui. Bon, c'est peut-être aussi une caractéristique. Oui, oui, c'est possible, c'est possible. Bon, en tout cas, le travail bénévole, ça c'est... Alors, évidemment, c'est autre chose. Et le dernier point, c'est que, en fait, bon, Alice, je ne sais pas si tout le monde connaît, elle est accompagnée de deux amies, Bess et Marion, dont l'une est la fille type qui se bourre de gâteaux, qui a envie de sucreries tout le temps, et l'autre qui a des allures un petit peu masculine, de garçon manqué, qui est très active, très sportive. D'ailleurs, Marion, dans la version anglaise, s'appelle George, ce qui accentue l'ambiguïté. Et on peut dire que c'est un peu la part féminine et la part masculine d'Alice, enfin, bon, très, très grossièrement. Et elle a un fiancé, enfin, plus ou moins très, très chaste et pur, mais qui s'appelle Ned, qui est étudiant. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les aventures, Alice peut-être peut se permettre d'autant plus d'être active et d'entraîner ce garçon dans ses aventures, parce que finalement, lui est un peu falot à côté d'elle, mais d'autant plus qu'on sait qu'une fois le livre terminé, tout reprend sa place, que c'était une aventure exceptionnelle, même si elle en a beaucoup, et qu'en fait, c'est bénévole. C'est en dehors de tout schéma de travail. Alice n'a absolument pas l'intention de devenir détective professionnelle, elle le répète, et c'est juste des échappées pour lui permettre de mieux réintégrer après le monde bien organisé selon les stéréotypes les plus traditionnels. Et qu'elle épouse Ned ou quelqu'un d'autre plus tard, en tout cas ce qui est sûr, c'est, même si c'est pas dit, tout le laisse entendre, c'est qu'elle épousera quelqu'un et que, bon, c'est juste comme ça une année où elle peut se permettre une évasion qui n'est permise, enfin je répète, qui n'est vraiment permise que parce que c'est une évasion de ce monde traditionnel. Donc en fait le sexisme est facile à repérer dans certains cas, dans d'autres cas ça prend des formes beaucoup plus insidieuses dans ce type de livre en tout cas, et ça prépare directement à un autre type de livre et de série qui sont les Harlequins, mais ça c'est une autre histoire. Et bon, mais enfin c'est pas un hasard non plus que la littérature de série pour enfants comme pour adultes s'adresse quand même avant tout aux petites filles et aux femmes pour bien leur montrer leur place et pour bien les faire rester à cette place. Alors évidemment, par réaction à ça, il y a un certain nombre de livres, surtout depuis les années 70, qui sont des livres antisexistes. Bon, j'en ai apporté un certain nombre, on pourrait faire un tour d'horizon rapide, mais disons que le défaut essentiel de ces livres, si leur qualité est de battre en brèche ces stéréotypes, c'est d'en installer d'autres à la place. Et on peut se demander finalement si un stéréotype n'en vaut pas un autre. Et quel genre de stéréotype? Alors il y a un livre qui est un livre québécois des années, je crois que c'est 74-75. Voilà, le sexe faible. C'est destiné à des enfants. Hein. On peut se demander d'abord si ce type de comment peut être reçu ce type de dessin, ce type de texte, de présentation. C'est du livre militant, et ça, les qualités et les défauts du livre militant, en fait. Bon, donc ça, c'est l'histoire de trois servantes, enfin de trois femmes, de trois filles, en fait, elles sont présentées presque comme des enfants, qui servent à un monsieur qui est le patron. Il y a la servitude, enfin les classes sociales qui viennent aussi s'ajouter à ça, et qui se révoltent. Alors, bon, là, on peut peut-être pas parler de stéréotypes, mais en tout cas de choses qui sont fortement stéréotypées, si on peut parler jusqu'à employer le mot stéréotype. C'est-à-dire, est-ce qu'une histoire de ce genre est susceptible d'intéresser? Est-ce qu'il y a identification possible à un personnage? On a plus l'impression dans ce type de livre que c'est pas des histoires qui sont racontées, mais simplement une idée développée. Il y en a un autre que j'ai pas ici et qui est aux éditions des Femmes. Je voudrais retrouver le titre, et qui raconte une révolte de femmes aussi, qui se passe. Oui, c'est l'histoire des sandwichs. Où il y a les hommes qui sont en train de faire la guerre, et puis les femmes qui décident de s'en aller, et qui se retrouvent, encore une fois, bon, du côté de. Thank you. d'une certaine façon. Alors, je terminerai sur une réflexion qui est davantage une question. C'est que signifierait, Raymond vous a parlé tout à l'heure du non-sexisme pour les jeux, pour les jouets, que signifierait le non-sexisme dans le cas des livres, et donc dans le cas qui nous intéresse, des livres pour enfants. Parce que finalement, il y a un certain nombre de livres qu'on peut qualifier de non-sexistes, des livres qui ne sont pas sexistes, mais est-ce que le non-sexisme signifie l'absence de sexisme, ou est-ce que ça signifie plus simplement l'absence de toute référence au problème du sexisme et de l'antisexisme? Je ne sais pas si c'est très clair. C'est-à-dire que un livre qui n'aborde pas du tout la question de la différence et du partage des rôles, c'est un livre d'une certaine façon non sexiste, mais c'est aussi un livre qui ne pose pas cette question. Alors c'est un petit peu la question sur laquelle j'aimerais terminer. Je ne sais pas si on pourra trouver ensemble des éléments de réponse, c'est-à-dire comment imaginer une littérature qui ne soit pas sexiste. Est-ce que c'est une littérature pour enfants qui doit résolument laisser de côté la question du sexe? Autrement dit, est-ce qu'il y a un imaginaire asexué, entre guillemets? Ou bien, est-ce que c'est une littérature qui, d'une certaine façon, considère que la question est déjà réglée et se trouve ailleurs? Ou est-ce qu'il y a une façon de régler cette question qui ne serait pas antisexiste, mais qui serait non-sexiste?
Quelqu'un
a
essayé de trouver la solution, puisque vous posez la question,
et c'est pas
réglé,
disons, on est
là-dedans.
Non, c'est... Il me semble
qu'on en est... Qu'on pourrait avoir, oui. Trouver la solution, mais puisque vous connaissez mieux ces enfants, vous n'en connaissez pas un, vous diriez, bah, ça rejoint un peu ma recherche, où les choses sont un petit peu conciliées.
J'ai l'impression qu'on en est un peu à cette étape, c'est-à-dire qu'après l'étape de la dénonciation du sexisme partout, et en particulier dans la littérature pour enfants, il y a eu cette réaction qui a été de faire l'inverse, mais avec toujours cette intention démonstrative et pédagogique qui n'est jamais tout à fait absente des livres pour enfants. Et maintenant, on essaye un peu de voir comment on peut dépasser ce paradoxe et cette contradiction. Alors, il y a un livre, par exemple, mais c'est pas non plus entièrement satisfaisant, c'est un livre qui se trouve aussi à la librairie de l'inédite, là, au stand qu'elles ont ici, qui s'appelle Conte en F. Bon, F, c'est transparent, on voit de quel pays il s'agit. Et c'est présenté comme des contes de la mythologie ou du folklore, faisant appel à différents pays, mais dont les personnages principaux, dont les héroïnes sont des femmes, et des femmes qui ont un rôle... À la limite, enfin, il y a certaines, c'est quand même le rôle traditionnel de la mère, en fait, ou de la femme mère, telle qu'elle peut être, la déesse mère, telle qu'elle peut être vénérée dans la mythologie, ou bien de la femme du côté de la paix, de la nature, mais c'est fait de façon plus subtile que le temps des pommes, par exemple. Là, il y a une histoire, en tout cas, et le but, c'est pas seulement de démontrer que les femmes sont à l'origine du monde, c'est de raconter une histoire. Donc ça, c'est quelque chose que je peux vous faire passer, si vous voulez. Thank you.
Eh bien, puisqu'on vous a parlé de ce livre, Les Contes en F, on va vous en lire une. On va vous raconter une de ces histoires, une de ces quatre histoires qui se trouvent dans ce livre. C'est l'histoire du soleil et de l'araignée. C'est une légende des Indiens Cherokee. Au commencement des temps, il faisait tout noir. Il n'y avait pas de jour. Parfois, une lueur lointaine brillait à l'horizon et les animaux qui cherchaient leur chemin à tâtons disaient « Tiens, à l'est, il fait plus clair. Peut-être la lumière viendra-t-elle aussi chez nous. » Mais la lueur ne dépassait jamais l'horizon et les animaux continuaient à trébucher, à se cogner dans l'obscurité. Et lorsqu'ils entraient en collision, l'un d'eux disait « On aurait besoin de lumière. » Et l'autre répondait « Oui, c'est de lumière que nous aurions besoin. » Enfin, fatigués d'attendre ce jour qui ne vient jamais, les animaux se réunissent en assemblée. Dans le noir, ce n'est pas chose très facile. Le pic frappe sur un tronc d'arbre pour demander le silence. Et lorsque tout le monde se tait enfin, il ouvre la séance. « J'ai entendu dire que les habitants de l'autre bout du monde sont les maîtres de la lumière. » Peut-être si nous leur en demandons, nous en donneront-ils un peu. Mais s'ils possèdent la lumière sans jamais la laisser dépasser l'horizon, c'est qu'ils ne veulent guère la partager, dit le renard. Et s'il en est ainsi, il vaudrait mieux leur en voler, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Juste, juste, approuve toute l'assemblée. Qui va ? Moi, cria l'ours qui est très fort. Moi, dit le renard qui est très rusé. « Moi, propose l'aigle, qui est très rapide. »« Pourquoi pas moi ?» demande le sarigue, qui en ce temps-là avait la queue la plus touffue. « Il ne suffit pas d'y aller, d'y dérober la lumière. Il faut aussi la ramener, sans que personne ne s'en aperçoive. Et moi, je peux enrouler et cacher n'importe quoi dans ma belle queue. »« C'est juste, » approuvèrent les autres. Et le sarigue s'en va vers l'est. Au fur et à mesure qu'elle avance, la lumière grandit et devient plus éblouissante. Les yeux du sarigue, habitués à l'obscurité, larmoient et rougissent. Mais le sarigue est brave, il ne se laisse pas décourager. Il plisse ses yeux et continue sa route. Il les plisse si bien d'ailleurs qu'il ne les a pas encore déplissés aujourd'hui. Et voilà pourquoi il ne sort que la nuit maintenant. Le sarigue marche et marche jusqu'en arriver à l'autre bout du monde, là où se trouve un gigantesque soleil. Il s'en approche en courant et arrache un bout, le cache dans sa belle queue touffue et retourne aussi vite qu'il le peut chez son peuple. Mais le chemin est tellement long et le bout de soleil est tellement chaud que lorsque le sarigue rentre enfin, sa belle queue est toute maigre et brûlée et le bout de soleil un charbon éteint. « Quel malheur! Voilà notre frère à jamais sans panache et nous toujours sans lumière !» se plaignent les animaux. « C'est que notre frère s'y est mal pris en réchauffant la lumière dans la fourrure, » dit le busard. « Moi, je serai plus prudent. Je la mettrai sur ma tête pour que le vent la rafraîchisse. Je n'ai pas besoin de la cacher puisque je vole si vite que personne ne pourra m'attraper. » Et il s'envole vers l'est. Il vole des jours et des jours, si haut que les gardiens du soleil ne s'en aperçoivent qu'au moment où il plonge, et il vole un bout du soleil. « au voleur !» crient les gardiens. Mais trop tard, le busard est remonté si vite qu'il n'est plus qu'un point lumineux dans le ciel. Il met le bout de soleil sur sa tête et retourne aussi vite qu'il le peut vers son peuple. Mais le chemin est tellement long, et le bout de soleil tellement chaud, que lorsque le busard rentre enfin, sa tête est toute chauve et brûlée et le bout de soleil est un charbon éteint. Quel malheur ! Voilà notre frère chauve à jamais et nous toujours sans lumière, se lamentent les animaux. Devrons-nous rester toujours dans le noir ? Que faire si les braves qui ont fait tout leur possible ont échoué ?
« Peut-être confier cette tâche à quelqu'un qui n'est pas un brave, » dit une petite voix.
« Qui parle ? Qui es-tu ? Où es-tu ? » demandèrent les animaux.
« Je suis la grand-mère araignée, là, à vos pieds dans l'herbe. Et je me demande s'il n'y a pas des choses qu'une femme peut réussir mieux qu'un guerrier. En tout cas, je peux essayer. »
Et elle s'en va vers l'est à son tour.
Chemin faisant, elle ramasse un peu d'argile humide et la roule dans ses pattes doucement, doucement, jusqu'à en faire un petit bol. Elle marche vers la lumière, portant le bol avec ses pattes avant et tissant un long fil qu'elle laisse traîner derrière pour pouvoir retrouver son chemin. Et son voyage dure longtemps, très longtemps, car grand-mère araignée est toute petite, grise et vieille, et elle marche si doucement que personne ne la remarque, même pas les gardiens du soleil géant, qui pourtant sont devenus méfiants depuis le passage du Sarig et du Buzard. Arrivée tout près, elle avance sa patte, arrache un minuscule bout de soleil, le cache dans son petit bol et doucement, suivant le fil presque invisible qu'elle a tissé, elle retourne sur ses pas. Et personne n'en a rien vu dans la grande lumière du soleil géant. Mais au fur et à mesure que grand-mère araignée avance dans l'obscurité, d'est en ouest, la lumière dans son bol devient plus claire, plus forte, plus rayonnante, et c'est un vrai soleil qu'elle ramène à son peuple. Et c'est depuis ce jour-là qu'on vénère grand-mère araignée et qu'elle-même tisse sa toile à l'aube en forme de soleil rayonnant. Et c'est depuis ce jour que la poterie est le métier des femmes chez les Indiens d'Amérique et que les peaux sèchent lentement à l'ombre avant d'être mises au four, tout comme le bol de grand-mère araignée sécha dans l'obscurité pendant son long voyage vers le pays du soleil géant à l'autre bout du monde.
Vous êtes sur Radio Pleine Lune, 101.4 MHz. C'était un dossier sur l'éducation non sexiste.